chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue chez Intégration, l'émission de RPH qui vous présente des gens du monde entier qui habitent en l'Hérault. Aujourd'hui, je suis avec l'Ukrainienne Olga Barbash. Bonjour Olga.
Bonjour.
Olga, ça me fait vraiment un grand plaisir de vous accueillir ici, mais en même temps, quand on parle de l'Ukraine, ça fait toujours un peu « aïe, 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 c'est triste hein. ». Mais je pense que beaucoup de gens ne connaissaient rien sur l'Ukraine avant cette guerre. Ouais. Alors l'Ukraine, c'est un grand pays, hein?
Oui, oui, l'Ukraine... Géographiquement, elle est le territoire un peu plus grand que la France même. Mais il est vrai que quand je suis arrivée en France il y a 20 ans, beaucoup de gens ne connaissaient pas. On connaissait ouais. L'Ukraine par rapport à foot.
Alors en fait, c'est le plus grand pays d'Europe.
C'est ça. Hein? Ouais. Alors, et le centre
Russie,
géographique, grand, ça se trouve en Europe.
Mais la Russie, la majorité, c'est pas l'Europe. Alors c'est vraiment très très grand. Et la capitale, Kiev, ce sont 3 millions d'habitants.
C'est ça.
Alors, c'est aussi très, très grand. Et l'histoire avec... moi, j'ai regardé un petit peu l'histoire de l'Ukraine. C'est très compliqué. En fait, c'était un pays très culturel. Alors, depuis toujours, hein, on peut dire comme ça.
Oui, oui, on peut dire que c'est le berceau de notre civilisation. L'histoire de Russie, donc ça part également de Kiev, de l'Ukraine. Et puis, ce que je veux rajouter, que le centre géographique de l'Europe, il se trouve aussi en Ukraine. Et la ville d'où je viens, donc c'est la ville de Tchernigiv, c'est le berceau de toute l'histoire de Russie, de l'Ukraine. Et puis la Russie, ça partit aussi de l'Ukraine. La Russie actuelle.
Et cette ville, c'est où à peu près?
Alors, c'est un peu plus au nord de Kiev, donc la ville qui compte à peu près 300 000 habitants et qui est très riche par sa culture. C'était très important, surtout à l'époque de commerce, de développement de l'Ukraine, de Russie à l'époque. Donc, c'est une ville très, très connue partout dans le monde aussi, par son histoire surtout.
Oui. Ah oui. Et l'Ukraine, en fait, ça a participé à l'Union soviétique.
Oui, oui. L'Ukraine, ça fait partie de 15 républiques de l'ex-URSS. Et moi, j'ai connu cette époque parce que je suis, on peut dire, l'enfant de l'URSS. Et j'ai connu, donc, dans mon enfance, l'Ukraine qui n'était pas le pays libre, qu'on a eu notre liberté il y a 30 ans, hein, en 91,
ouais, 91,
après la rupture de l'URSS. Mais dans l'histoire, l'Ukraine, c'était toujours le pays qui était envahi, on a tellement de richesses naturelles, culturelles, qu'on a toujours du mal à obtenir notre liberté, la vraie liberté. Hein. Même pendant ces 30 ans de notre liberté, on n'était pas complètement libre parce qu'il y avait toujours la présence de ce qu'on appelle la cinquième colonne. Je ne sais pas si cette expression est connue en France.
Expliquez.
Alors, ce sont les intrus, les tops, on peut dire les Russes, les politiques qui sont tellement impliqués dans la politique en Ukraine qui gèrent l'Ukraine encore. Hein.
Jusqu'à présent.
Oui, on peut dire que par rapport à tout ce que j'entends, je suis du près, hein, à tout ce qui se passe actuellement, qu'en Ukraine, il y a deux guerres. La guerre avec la Russie et la guerre à l'intérieur de pays, on peut dire entre guillemets la guerre. C'est le nettoyage de la recherche de politiques russes, des gens qui sont dans la politique, qui étaient achetés, financés par le gouvernement russe pendant des années. Hein.
Ah oui. Là, il y avait, il y a 9 ans, il y avait les manifestations, là, l'Euromaïdan.
Oui.
Pour vous, c'était quoi? Alors, parce que les gens, ils ont révolté, ils voulaient plus quoi?
Oui, alors Maïdan, les gens, il est révolté contre le président qui n'était pas élu par le peuple, qui était justement, qui était, on va dire, donné à l'Ukraine par les Russes. Donc Yanukovych, et puis notre peuple se levait, il a dit non, on a su que c'était les élections qui n'étaient pas justes, que c'était... trafiqués, et puis donc les gens sont révoltés. Parce que sa politique de Yanukovych à l'époque, c'était pro-russe. Donc il ne voulait pas que l'Ukraine s'approche de valeurs de l'Europe, qu'elle rentre dans l'Europe. Donc il a pris cette décision tout seul, sans demander, sans faire le référendum, sans faire la demande à l'Assemblée. Donc c'était sa décision. Il a dit, on s'approche à la Russie, on va suivre la Russie. Voilà. Toutes ces valeurs. Et donc les gens, ils ont dit non, ils sont sortis.
Et c'était presque une guerre civile.
Tout à fait, c'était une guerre civile, oui. Il y avait beaucoup de morts. Il y avait les snipers qui étaient sur le Maïdan, qui tiraient sur les gens civils, sur la population. Et donc c'était les snipers qui étaient envoyés par le président.
On va écouter maintenant une musique. Vous expliquer après parce que c'est un peu triste.
В небі чистому чути грім, в небі свист. Стало чути гімн, в небі чистому мутний дим, горить ліс, стало чути гімн, в небі чистому чути грім, в небі свистало чути гімн, в небі чистому мутний дим, горить ліс, стало чути гімн. Значить, вистоїмо ваші вистріли, за нами правда, її ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, визволим селом, ми за селом, за нами правда, значить, ми з долин повиганяєм зло. Ну а поки будем битва за Азов і Буч, за дні, за Дніпро і Круч, за Ірпінь, який ти муч, зелений квітуч, за Херсон землю родюч. За Донбас получ, за Чернігів неминуч, за ліси дрімуч. За Хмельницького Богдана, за Франка Івана, і за Суми, і за храми, за село прийде за вами. І за ночі, і за рани, за кожен тривожний ранок, за Харків і тюльпани, за Одесу, мамо. За Рівне і Здолбанів, за Полтаву, Львів і Полі, за Київ, Луцьк, за Вінницю, за Миколаїв долі, за Чернівці, Черкаси, Тернопілі, Кривий Ріг, за Запоріжжя і Житомир, і за Крим забуться гріх. В небі чистому чути грім, в небі свистало чути гімн, в небі чистому мутний дим, горить ліс, стало чути гімн, в небі чистому чути грім, в небі свистало чути гімн, в небі чистому мутний дим, горить ліс, стало чути гімн.
Ольга, il a chanté quoi?
Alors, cette chanson, il parle de la guerre, oui, que quand on entend dans le ciel clair, bleu, les explosions, on voit le feu dans les forêts, tout qui brûle. Nous, les Ukrainiens, les soldats, on entend notre hymne. On sait que la vérité est de notre côté, on sait pourquoi on se bat. Et puis, ce qui est très joli et particulier dans cette chanson, il récite toutes les villes, chaque ville, y compris la mienne, pour laquelle la vengeance, elle va être imminente. Qu'on va se venger, on va tout gagner, on va reprendre toutes nos villes et qu'on va faire payer pour toute la malheur que chaque ville elle a subi. Donc il récite Kiev, Tchernigiv, même à la fin, il parle de Crimée. Donc ça, on entend bien, c'est très, très émouvant, c'est très riche comme les paroles. Oui.
Alors, vous êtes en contact avec... les Ukrainiennes, alors au pays, alors votre famille était touchée par la guerre ?
Oui, j'ai mes parents donc qui sont en Ukraine, ma mère parce que mon père elle est décédé il y a quelques mois.
À la guerre.
Donc il a pas supporté. Je pense que son cœur n'a pas supporté parce que ils ont vécu 9 mois dans la cave et les 2 premiers mois c'était les bombardements constamment de tous les jours donc. Quand j'ai les souvenirs de ces conversations, il se disait à chaque fois, la nuit, il se disait adieu, et donc il se cachait chacun de son côté en se disant les adieux, et s'il y en a un qui va être enterré sous la maison, que l'autre, il va essayer de sortir pour sauver. Donc la maison, elle est sans les fenêtres, elle était oui, très abîmée. Ma mère elle m'a raconté que dans ma chambre, il y a le morceau de roquette. Je n'ai pas vu, j'ai du mal à réaliser ça. Et il y avait quelque chose de... Enfin, ce qui l'a vraiment, on peut dire, cassé son moral, sa santé. Il a son meilleur ami, le voisin, qui était mort à côté de notre maison, parce que pendant l'alerte, ils sont sortis de sa maison, ils ont couru pour se cacher dans notre cave. Le voisin, il était mort devant notre porte. Il n'a pas eu le temps de se cacher. Donc, il a pris dans ses bras, il a essayé. Donc, sa femme qui était blessée, elle est handicapée du dos, et le fils qui restait. Donc, il a vécu toutes ces horreurs. Et puis, quand ça arrivait à l'hôpital, quand ils l'ont amené à l'hôpital, il restait plusieurs heures, presque 2 jours, et personne ne l'a sauvé parce qu'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien. Donc, c'est provoqué par la guerre, quand même.
Vous avez d'autres gens de la famille qui ont quitté l'Ukraine parce que, par exemple, en Allemagne, là, on a beaucoup d'Ukraine.
Oui, en Allemagne, il y en a beaucoup, y compris ma sœur qui elle a vécu le premier mois de bombardement. Elle s'est cachée aussi avec mes parents dans la cave. Et là, c'est 2 enfants qui sont petits encore, de 7 ans, les jumeaux. Donc, elle est partie un mois après, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas quitter l'Ukraine, mais voilà, c'est l'instant de survie. Et elle se dit qu'elle doit protéger ses enfants, donc elle a quitté la ville.
Elle est partie le dernier jour.
Oui, elle est partie en Allemagne. Et après tous les...
Vous savez dans quelle ville?
Oui, c'est Cuxhaven, je ne sais pas si ça vous parle, Cuxhaven.
Cuxhaven,
je prononce bien.
C'est dans le nord.
Oui, c'est dans le nord. Et donc elle était sur le chemin pour venir en France, chez moi, mais elle décidait de rester là-bas.
Oui, alors franchement, là... La Pologne a pris 1,5 million.
Oui, j'ai des amis proches qui sont en Pologne
et
aussi.
L'Allemagne, 1,1 million. La France, pas beaucoup. La France, ce sont 119 000. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Dans l'Hérault, 2,500. À Stuttgart, là où je suis très souvent, ce sont 10 000. Et en bas de Württemberg, alors le pays là, ce sont 146 000. Alors ce sont beaucoup.
Oui, je pense que dans tous les pays, dans chaque ville, il y a quelques
et ils
réfugiés.
Ont, ce que je trouve bien, alors ils ont l'avantage d'être tout de suite, alors ils sont acceptés comme réfugiés pour prendre l'asile. C'est pas comme les autres où c'est compliqué. Alors si quelqu'un vient de l'Afghanistan ou l'Iran, c'est pas pareil. Et je trouve que c'est bien que c'est comme ça, mais pour les autres, ça doit être pareil, moins compliqué.
Pour
avoir l'asile, pour travailler, ils peuvent travailler tout de suite et ça c'est bien. Ça,
c'est vrai que c'est compliqué et j'avoue que tant que la malheur en général, tant que ça ne touche pas nous-mêmes personnellement, on ne voit pas les choses si près, on ne prend pas tellement à cœur hein, parce que jusqu'à la guerre en Ukraine, bon j'ai... Je peux dire que j'ai la honte, je ne suis pas tellement intéressée par tout ce qui se passe dans le monde entier. On entend à gauche, à droite qu'il y a les malheurs partout, la faim, les guerres. Mais bon, quand ça arrive, quand ça touche, comme on dit chez moi par l'expression sa propre chemise, là, on commence à s'intéresser à tout, hein, à la politique extérieure. Et après, on comprend tous les gens souffrant.
Alors nous, on ne peut pas voir quand la guerre sera terminée. Aucune idée.
Non, mais là, dans les jours qui suivent, ça va commencer fort. Moi, je suis les informations sur les chaînes ukrainiennes. Donc, ils se préparent à l'offensive. Ça va être... on va attaquer vraiment très, très fort. On espère. Il y en a certains politiques donc, qui s'expriment en Ukraine, qui disent qu'il n'est pas impossible que, jusqu'à la fin de l'année, on va récupérer toutes les terres, même Crimée.
Pourquoi on... à l'est du pays, Donbass, pourquoi les gens sont plutôt ou étaient plutôt pro-russes?
Alors, plutôt pro-russes, ils sont déjà dans les années, il y a très très longtemps, il y avait beaucoup de Russes qui étaient déportés dans ces régions. Et puis, quand ça a commencé avec Donbass, donc les Ukrainiens, il y a presque je sais pas, la population qui est pro-ukrainienne, ils sont partis.
Oui,
ils sont quittés ces régions. Et
c'était les Russes.
Oui. J'ai mon oncle qui est à Donbass, qui est décédé aussi. La partie de ma famille qui est là-bas. Donc pendant 9 ans, on suit de près aussi cette région. Enfin, on sait ce qui se passe. Il n'y a plus rien là-bas. On n'a plus de contact avec ma partie de famille de là-bas. Aucun contact. Mes nièces, mais...
Ouais, c'est difficile. On va écouter une autre musique qui est... Ce sont 4 langues ou 5?
Je crois, oui, c'est au moins 4 langues, un ukrainien, allemand.
Ok, on va écouter ça.
Ой, у лузі червона калина похилилась я. Чогось наша славна Україна зазурилась я.
C'est un petit peu un hymne pour,
oui, c'est pour l'Ukraine. Hymne de l'Ukraine en Europe, on va dire. C'est voilà. La chanson la plus connue. Oui.
Alors, Olga, on va parler de vous maintenant. Vous avez fait des études en Ukraine.
Oui. En Ukraine, j'étais à la faculté, à l'université, je suis une enseignante de technologie. Et puis, donc, mon parcours, quand je suis arrivée en France, c'était à la fin de mes études. Donc, il y avait l'association française qui est venue pour choisir quelques élèves dans le but de faire venir en France et enseigner dans en restauration, hôtellerie, pour amener la culture européenne, culture de France dans l'Ukraine. Donc, je devrais après enseigner dans le lycée professionnel, hôtellerie et restauration, ce que je fais. Donc, après ce stage, je suis retournée en Ukraine, je travaillais dans le lycée professionnel. Voilà.
Dans votre ville ?
Dans ma ville, oui. Oui. Oui, oui. C'était organisé par Rotary Club en France, et à l'époque, c'était un organisme qui s'occupait des orphelinats ukrainiennes. Donc, monsieur et madame Leclerc, je ne sais pas s'ils sont toujours, mais c'était placé au niveau de l'État. C'était très intéressant, enrichissant comme expérience. Voilà.
Et comment ça se fait que vous êtes retournée en France ?
Alors après, je suis restée à Tchernigiv, je travaillais, et puis donc, j'ai décidé de réaliser mon rêve de devenir l'interprète. Parce que depuis mon enfance, j'étais toujours passionnée par la France. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, parce que bon, c'est les livres de Dumas, certainement, Angélique. Et puis dans la période de RSS, on ne connaissait que dans le cinéma, les films de Louis de Funès, Pierre Richard. Voilà, c'était cette époque-là dans ma tête. Et je suis tombée complètement amoureuse de ce pays, sans le connaître. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire les études en langue française et puis on verra ce que ça donne. Est-ce que je serai capable d'être l'interprète? Voilà. Donc, je fais mes études ici. Puis,
à Montpellier
Non, c'était à Via Domitia à Perpignan, donc la filière à Narbonne. Mais je suis toujours restée à Béziers pendant 20 ans. Voilà. Et puis, je fais les études aussi dans le droit viticole. Le commerce du vin, international du vin, et je travaillais pour le domaine viticole ici, dans Nissan Les Anserunes, dans l'export, justement l'export pour la Russie, pendant 7 ans, et c'était très intéressant, c'était très, très chouette. Belle époque jusqu'à 2014, voilà.
Oui, à l'époque, la France a exporté beaucoup de vin vers la Russie.
Vers la Russie, oui, beaucoup plus. On faisait, je crois qu'il y a entre 2 et 4 millions de bouteilles par an. Donc, je gérais le marché de l'Est, voilà, la Russie en particulier. Ouais.
Et après, quand il y avait les problèmes avec la Crimée.
Oui, ça tombait. En fait, ça tombait à la naissance de mon deuxième fils. Donc, j'ai arrêté quelque temps. J'ai pris le congé et puis quand je suis retournée, voilà, je voulais pas continuer. Ça me, je sais pas expliquer. Ça me dessus de travailler avec les Russes. Ça veut pas dire que tous les Russes sont méchants, pas du tout, mais. J'avais cette incompréhension et tout, je ne me régalais plus, je ne comprenais plus, je n'avais plus aucune envie de continuer avec la Russie. Ouais.
Et maintenant, vous faites quelque chose qui est très spécial.
Oui, alors maintenant, je fais le yoga du visage. C'était ma passion, je le trouvais par hasard, assez pratique. Et puis, je commençais à faire pour moi. Puis, j'étais formée à Kiev, en Ukraine. Donc maintenant, je suis diplômée, certifiée par yoga du visage et face building. Mm-hmm. Et je transmets donc ma passion dans mon travail. Voilà, j'ai ma chaîne de YouTube.
Alors, qu'est-ce que ça fait ? Quand je fais du yoga du visage, ça me fait quoi ?
Alors, je vous explique en quelques mots, ça, pour comprendre le plus facile. On compare le visage avec le corps. Pour le corps, il y a tant de choses, on peut faire le footing, le foot, la natation, il y a je ne sais pas combien de sports possibles, imaginables, pour travailler les muscles du corps, pour se faire du bien, pour rester jeune, tonique, voilà. Sur le visage, nous avons aussi les muscles, il y en a 57 sur le visage et sur le cou. Et qu'est-ce qu'il y a pour le visage, à part les crèmes, les scrubs, pas grand-chose. Après, c'est les piqûres, les chirurgies esthétiques, etc. Voilà. Donc, pour ne pas arriver à là, on peut entraîner le muscle du visage. Et donc, ça le fait thérapeutique aussi, pour les gens qui sont, par exemple, après AVC, qui sont les paralysies de nerfs. Donc, ça fait l'affaissement de la peau. Donc, on travaille la symétrie aussi. Mais surtout, c'est dans le but de rajeunir, de rester jeune, prolonger la jeunesse et la beauté, parce que l'état de notre peau dépend de l'état de nos muscles. Quand les muscles sont toniques, se remontent, donc la peau aussi.
Ça fait aussi partie de cette gymnastique.
Sourire, bien sûr, oui, oui, oui.
Rire.
Il y en a plusieurs façons de rire, de sourire. Donc, les gens, par exemple, qui sourient avec le coin de la bouche tiré en bas, donc ils ont plutôt le visage triste. C'est les muscles dépresseurs triangulaires qui travaillent. Ça fait le visage triste. Ou entre les sourcils, quand on force les sourcils, par exemple, aussi. Donc, ça travaille cette zone-là. Et avec le temps, avec un an après l'autre, donc ça devient comme notre masque. Ces muscles sont spasmés. Et comme on dit chez moi, après 40 ans, nous avons le visage qu'on mérite. Donc, si on est joyeuse dans la vie, souriante, c'est une série de muscles qui travaillent, qui se renforcent. Donc, on a l'air plus jeune, joyeuse. Et les gens qui sont plus dans les émotions noires, qui sont tristes, ils ont les visages tristes et ils vieillissent beaucoup plus vite.
Alors, voilà, on va regarder sur votre YouTube. Et on va voir.
C'était une aventure, hein, mais bon, ça a l'air de marcher bien maintenant.
Alors, on arrive à la fin de notre émission. J'aimerais bien que vous me dites quelque chose dans votre langue natale.
Ah, ma langue. Я сподіваюсь на дуже швидку перемогу, на те, що ми зможемо побороти, виграти цю війну, як внутрішню, так і зовнішню, проти путінської Росії, і що всі українці нарешті зможуть повернутися і знайти свої домівки, і бути щасливими, і зможуть збудувати нову Україну, насправді вільну Україну, нашу країну до наших мрій, щоб наша країна цвіла, як наша мрія.
Alors, ça veut dire quoi cette langue?
Que j'espère à notre victoire rapide, avec les pertes moins possibles, que je souhaite surtout que tous les Ukrainiens qui sont partis, qu'ils vont pouvoir retourner en Ukraine au plus vite pour retrouver ses maisons et pour construire notre pays, nouvel pays libre, le pays de nos rêves.
Merci, ça veut dire quoi?
Дякую.
Дякую.
Дякую, en ukrainien.
Et au revoir.
До побачення. До побачення.
До побачення.
До побачення. До побачення.
Au revoir. Merci beaucoup.
Дякую.